Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Campus Amiens, 87.7 FM. On se retrouve aujourd'hui pour votre petite bulle d'art mensuelle en parlant de René Magritte. Magritte peint en 1928 Les Amants, premier tableau d'une série de quatre. Un couple s'embrasse au premier plan, mais chacun a le visage recouvert d'un tissu blanc, de sorte que leurs lèvres ne se touchent pas. L'homme est en costume et la femme porte une robe rouge. Derrière eux, le mur d'une maison ou peut-être un ciel orageux. Le cadrage cinématographique nous laisse le goût du doute, le goût du choix. Deux amants qui tentent de sceller leurs désirs, mais dont les lèvres sont condamnées à ne se toucher réellement. Une douceur charnelle inassouvie, en contraste avec une frustration qui ne semble émerger. Ils s'embrassent passionnément, sans prêter attention à la frontière qui les sépare, et le foulard qui devait les étouffer semble au contraire leur offrir un espace nécessaire de respiration. Accepter de laisser son partenaire tenir une part de lui-même voilée, faire de même, mais pour autant partager un monde commun, voilà comment se présente l'amour. Mais aussi, voiler l'amour, pour envoyer les baisers à l'intime, et le retourner à la sphère du privé, seul lieu d'expression légitime d'un sentiment sans façade. Cependant, lorsque nous nous penchons sur la vie du peintre, ces tableaux ne peuvent conserver plus longtemps cette musique délicieuse de la pudeur amoureuse. L'histoire troque alors ses teintes rouges de l'amour pour le rouge de la mort. Sa mère, qu'il a perdue à 13 ans, qui a plongé son âme dans la cendre jusqu'à la libérer, lui a transmis la difficile image d'un corps froid, coiffé d'une chemise blanche tombée sur son visage. Ce lourd héritage ne saurait s'échapper totalement de l'esprit du spectateur. C'est pourtant le souhait de Magritte, qui exilait Freud et sa psychanalyse loin de son art, boudant les interprétations qui se veulent savantes, pour mieux embrasser les commentaires hasardeux. Quand Magritte peint le Fils de l'Homme en 1964, il représente un homme en costume, debout, se tenant de face, et dans son dos une mer qui se confond presque avec le ciel grisonnant. Le chapeau melon qu'il arbore laisse penser qu'il s'est représenté dans un autoportrait. Le doute subsiste pourtant, car une pomme en lévitation s'est invitée pour dissimuler son visage, nous offrant seulement un mince aperçu des yeux du personnage. La pomme, première à s'offrir à notre vision, entrave l'accès à une information plus profonde. Nous sommes attirés, pour ne pas dire hypnotisés, par l'idée de ce qu'il se cache derrière. Il naît alors le conflit entre le visible et ce qui pourrait l'être mais ne l'est pas. Et puis, pourquoi la pomme ? Associée au titre, l'idée d'une référence au péché originel s'impose. Mais pourquoi ? Quel message l'auteur souhaite-t-il transmettre en inversant le sens du bras gauche pour nous exposer le coude de l'homme? Ainsi, plus le spectateur contemple, moins il comprend. Magritte nous invite alors à conjurer le sens pour accepter que ce qu'on regarde n'en a pas. Une pomme, ça aurait pu être une poire, le tableau n'en aurait pas moins changé. Peut-être que tout est là. Arrêtez de chercher l'explication légitime du tableau, pour simplement accepter notre condition d'interprétateur. Le réel ne peut se concevoir essentiellement. Il est déformé par les filtres que nous transposons sur la réalité. Représenter le vrai serait la prétention d'un peintre usurpateur. Lorsqu'il peint dans les années 1930 une série de tableaux, qu'il nomme la condition humaine, il représente à chaque fois devant une fenêtre, nous ouvrant sur le paysage, un chevalet portant une toile qui continue notre vision de l'horizon. Le paysage d'arrière-plan prend une dimension bien réelle en comparaison à celle du chevalet qui est censé le représenter. Et c'est alors que l'illusion magique se produit, que la fiction est confondue avec la réalité. L'un semble vrai, tandis que l'autre non, alors que les deux se confondent dans une seule et même représentation picturale. Il nous force à remarquer les limites de la peinture. Une toile aura beau s'efforcer d'être réaliste, elle ne sera jamais réelle. Il nous met en garde contre tous ces trompeurs. Un dessin de pipe n'en sera jamais une. Il se réserve le droit de nous le rappeler en 1929 dans La trahison des images en mentionnant que ceci n'est pas une pipe. Un dessin destiné à demeurer dans sa condition ne sera jamais utile, et encore moins pour fumer du tabac. Magritte nous met en garde certes contre les usurpateurs artistes, mais aussi contre les usurpateurs spectateurs. Nulle interprétation universelle, mais seulement le reflet d'une âme à un instant donné. Magritte, c'est la liberté de reconnaître ce qui nous chante, et parfois de nous mettre face à nos contradictions. Dans le portrait de 1935, il représente une table sur laquelle est disposée une bouteille de vin accompagnée de son verre, une assiette et des couverts. Ce tableau qui nous invite à dîner met en évidence une tranche de jambon portant en son centre un œil nous fixant. C'est une nature morte. L'animal est là, présent par son corps et sa conscience, faisant naître un malaise gourmet. Nos désirs gourmands peuvent être sitôt remis en cause par la violence de l'image. Pour vivre, l'homme tue. Enfin, l'œuvre de Magritte, c'est ça. Elle nous dévêtit de notre fardeau de la compréhension afin de nous inviter à interpréter. C'est la légèreté de ressentir sans être sous le courroux du faux. En somme, c'est l'art dans son essence la plus pure, celle de donner vie aux sentiments sans le sens à payer et sans pédanterie intellectuelle.